France Musique.
Bonsoir Lionel, on vous quitte pour le week-end, mais c'est pour mieux vous retrouver lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance.
Bruno Le Thor.
Pour la magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Et c'est Frédéric Gallier, compositeur, plasticien, instrumentiste, qui sera l'invité de cette émission. Émission qui s'ouvre, comme à l'accoutumée, par notre séquence discographique. Cette semaine, c'est une œuvre du compositeur Michael Pissarro, compositeur et guitariste, et membre du Vandelver Composer Ensemble. Son écriture repose notamment sur un jeu subtil qui intègre le silence comme un élément sonore. Pissarro a composé plus de 85 œuvres pour différentes formations instrumentales, dont plusieurs pour instrumentation variable. Dans Hot Sleep Streets, Pipes and Tones, il explore les propriétés sonores des tuyaux et des rues, ponctuées par un duo pour clarinette basse et guitare électrique en 10 petits mouvements d'environ 3 minutes. En plaçant l'auditeur au centre même de son travail, Michael Pissarro développe un processus de réception et d'appréhension du son et de la musique. Dans cette œuvre, il laisse aux interprètes un degré de liberté allant bien au-delà des limites habituelles qui séparent le compositeur et l'interprète. Celui-ci devient alors co-créateur avec la bénédiction du compositeur. Extrait de All Sip Streets, Pipes and Tones, mouvement 6, 7, 8 et 9, interprété et donc co-créé par Kak Konsten à la guitare et Christine Thjogerson à la clarinette basse. Extrait de Osleep Street Spice and Tones, mouvement 6, 7, 8 et 9, interprété donc par Kakon Sten à la guitare et Christine Tjørgersen à la clarinette basse, un enregistrement qui vient de paraître sur le label Hubro.
France Musique, tapage nocturne, Bruno Le Thor.
L'invité de cette semaine cultive avec passion un parterre d'expressions sur lequel se développent mille racines, art plastique, improvisation, écriture, installation. Car ce qu'invente Frédéric Galliel, c'est une forme nouvelle où barrières et impossibles sont bannis. Frédéric Galliel est compositeur et musicien éclectique. Il improvise, écrit et conduit une large palette d'ensembles instrumentaux. Il est aussi plasticien et à la basse, ses modes de jeu sont issus d'une recherche poussée vers l'élargissement des possibilités acoustiques et timbrales ainsi que l'ambitus traditionnel de l'instrument. Frédéric Galliel est l'invité de cette émission. Bonsoir Frédéric Galliel.
Bonsoir.
Alors votre travail est multiple, rassemblant à la fois improvisation, musique électroacoustique et art plastique. Est-ce que cette multiplicité est une unicité ?
C'est une bonne question. On en oublie toute la branche de la musique écrite dans mes actions.
On en parlera tout à l'heure justement.
Est-ce que cette multiplicité est une unicité ? J'ai envie de dire oui. Parce qu'en fait, j'envisage un peu ma vie, mais disons mon œuvre, mon travail, comme une sorte de méta-contrepoint et où les éléments de nature diverse sont quand même en parallèle et en croisement les uns avec les autres. Est-ce que l'aspect pictural n'est pas une des voies du contrepoint de mon improvisation ? Ou de l'écriture, même de l'écriture de poésie, que je pratique aussi. Alors, est-ce que c'est ma cuisine personnelle de dire ça pour me pousser à faire les choses et à les mettre en lien ? Je les vois pas sans lien, en tout cas, donc je dirais oui, unicité, mais avec une réponse aussi alambiquée que celle-là.
À quoi représente votre instrument dans votre expression? C'est un générateur sonore, parce que, en fait, vous n'en jouez pas du tout comme un instrumentiste traditionnel, ou rarement.
Ça m'arrive assez souvent, en fait.
En tout cas, pas ce soir.
Non, pas ce soir. Ben, là, déjà, l'instrument est posé sur une table, et effectivement, je m'en sers comme d'un générateur. Les pédales d'effet qui l'entourent font que s'accumuler et multiplier les signaux, en fait. C'est un générateur, mais je me sers aussi de résonateur, d'excitateurs qui mettent en résonance ce générateur de diverses manières. Et je désaccorde aussi de manière à créer des battements qui ne seraient pas là naturellement. Et je le traite, en fait, je l'utilise un peu comme un synthétiseur modulaire. Sauf que ce sont des cordes qui vibrent et des micros de basse électrique. Mais sinon, l'approche est assez semblable. Et quand on désaccorde la corde de là, son battement fait quelque chose sur les cordes de ré, de sol, de mi, qui est assez proche en fait de la modulation de fréquence du synthétiseur modulaire. Quoi.
Vous poussez d'ailleurs assez loin l'ambitus de l'instrument, oui, en allant frotter vers les infragraves et en remontant vers les extrêmes aigus, finalement dans un registre assez rare, je parle des extrêmes aigus, ouais, pour la basse.
Bah, le truc avec les instruments graves, c'est que de toute façon, ça peut monter haut. C'est les instruments aigus qui ne peuvent pas descendre. Mais
c'est quand ça monte dans les aigus que ça devient grave, c'est ça.
Oui, c'est ça aussi. Et je désaccorde le grave pour l'élargir encore vers le bas. Mais il n'y a pas de réelle limite, à part la limite de l'audition dans la génération de sons aigus avec des instruments graves, en fait. Un ami à moi, Michael Seminator, qui est un ingénieur du son, me disait une phrase pas mal, c'était « plus de basses à toutes les fréquences ». Mais il y a quelque chose comme ça, en fait. Même l'aigu d'un instrument grave a du corps. Et, je ne sais pas comment dire ça autrement.
Dans votre catalogue, c'est un catalogue assez multiple, j'y ai vu un quatuor singulier, le mouvement du scorpion, dans lequel on retrouve un instrument traditionnel,
oui.
Le taïgom. Parlez-nous un peu de cette œuvre.
Alors, c'est un projet qu'on a mis en place avec Benjamin Sanz, où on écrit chacun des partitions pour cette formule, qui au départ est Benjamin
Toujours Sanz. Avec le taïgom ?
Non. Non, non, c'est notre invité, c'était notre invité, mais la formation c'est Benjamin Sanz, à la batterie, moi à la basse, et Jocelyn Mieniel qui nous a rejoint à la flûte et électronique. C'est un projet qui est composé sur différents modes d'écriture et de codes d'écriture qui jouent simultanément. Il est fréquent que l'un des musiciens soit au minuteur alors qu'un autre est dans une métrique solfégique et que le troisième joue des dessins, par exemple.
Vous dessinez tous les trois ?
Je ne sais pas s'ils dessinent les deux autres, mais ce sont des partitions qui, des fois, sont purement graphiques. Mmh.
Thank you.
Autre pièce de votre catalogue assez singulière, la musique profane pour lieu sacré.
Oui, c'est avec Julien Boudard qui joue le synthétiseur MS-20.
C'est une volonté de blasphème ?
Non. C'est pas parce que je ne considère pas réellement le sacré que j'ai envie de blasphémer, mais pas du tout. Je pense que ces lieux sacrés, mais qu'ils soient catholiques, protestants, hindouistes, peu importe, souvent ont des sonorités qui m'intéressent. A priori, dans mon attitude mentale de personne athée, je ne vois pas vraiment pourquoi ça se limiterait au message religieux, ce type de son et d'esthétique aussi visuelle de ces lieux. Et on l'a joué quelques fois dans des églises et ça n'est simplement pas sacré, c'est très loin du blasphème.
Vous avez construit et déconstruit des ensembles. Vous avez travaillé avec beaucoup d'ensembles que vous avez fondés. Et puis, ouais, vous êtes passé à autre chose. Qu'est-ce que ce travail en commun vous apporte ?
Ah, déjà, c'est assez agréable de vivre avec les autres. Donc, travailler avec les autres aussi. Ça m'apporte aussi, à chaque rencontre que j'ai faite dans ma vie, ça m'apporte, moi, en tant que compositeur, comment je peux écrire pour que ce type de musicien comprenne naturellement les choses que je lui demande. Je vois pas pourquoi j'écrirais comme Rachmaninoff pour parler à un jazzman, par exemple. Et quand un musicien vient de la noise, par exemple, je vais pas l'embêter avec 3 pages de solfège. Et en fait, c'est juste comment moi, dans ma composition, je peux tirer ce que je trouve le meilleur des personnes que je rencontre sans leur imposer des choses récalcitrantes et qui aussi politiquement ne me plaisent pas plus que ça. Le fait d'imposer aux gens une vision arbitraire sans les considérer, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et en fait, j'aime à dire que on ne compose pas vraiment quelque chose, on compose avec quelque chose. Et c'est ce avec qui fait pour moi toute la différence en fait.
Il y a un duo que vous avez exploré pendant longtemps, celui que vous formiez avec Édouard Perrault,
oui,
sous le nom de Big.
Oui.
Quelle était la genèse de ce projet ?
Alors, c'est un projet qui a commencé il y a longtemps. On a commencé en 99, en fait. j'étais allé écouter le groupe Hubbub, donc où Edouard joue dedans, et qui avait fait un très bon concert ce soir-là, ce groupe. Et je suis allé voir Edouard, que je connaissais pas beaucoup à l'époque, et je lui ai dit, écoute, c'est simple, si j'avais été à ta place, avec mon instrument, j'aurais sûrement occupé le même genre de place que celle que tu as occupée ce soir. J'ai ressenti la musique comme vous l'avez improvisée et comme toi tu l'as improvisée. J'ai ressenti la même chose, je pense.
Comment vous définiriez justement cette place ?
Bah, comme on pourrait dire la place du soliste, parce qu'on fait des événements qui se détachent du signal global. Là, c'est ce même type de formulation que je ferais. C'est la manière de rentrer sous le son, la manière d'en ressortir, de créer le silence entre les événements, des choses comme ça, en fait. Et donc j'ai dit ça à Edouard, à qui ça a bien plu, ce type de compliment. Et je lui ai dit, ben, essayons de faire quelque chose tous les deux. Et on a essayé de faire des choses, on a essayé plein de directions possibles. Et très rapidement, on s'est arrêté et on a dit, tu ne trouves pas que c'est vachement bien quand on joue vite, fort et dense ? Et on était assez d'accord sur ça. Donc on a décidé d'enlever les autres éléments de notre langage dans ce groupe-là, ce qui n'est pas vrai. On passe aussi par des éléments beaucoup plus ténus, beaucoup plus raffinés, mais la base du projet, c'était plutôt vite, fort et dense.
Et ce nom, Big ?
Et ce nom, Big, c'est...
Vite, fort et dense.
Voilà. C'est ça. Après avoir décidé ça tous les deux... Le soir, je suis rentré chez moi et j'ai dit oh, « ben, je pense que ce nom serait bien ». Le lendemain matin, j'ai proposé à Edouard. Il a dit « Mais bien sûr, c'est ça
sur quoi ? Quels sont vos projets ?
Là, j'ai mis de côté quelque chose de mon catalogue, entre guillemets, parce que j'ai été en fait lauréat de l'Institut français hors les murs, l'année dernière en Asie du Sud-Est, au Myanmar, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge, pour un projet qui était d'aller rencontrer les acteurs, les moines et de du bouddhisme Theravada qui existe dans ces pays-là, d'Asie du Sud-Est, parce que j'ai toujours aimé beaucoup le son que j'entendais de leurs prières, de leurs... Oui, leurs prières. Et la musique que moi j'en écoutais. Évidemment, eux, ils m'ont dit, parce que le Theravada, c'est une doctrine un petit peu orthodoxe du bouddhisme, eux, ils m'ont dit, ah non, c'est pas de la musique, c'est des intervalles de notes pour se souvenir des paroles. Je dis, oui, d'accord, vous le concevez comme ça, moi, ce que j'entends avec mes oreilles, c'est de la musique. Que vous n'ayez pas la volonté d'en faire, c'est une chose. Mais moi, c'est ce que j'entends, ça en est. Et donc, j'ai composé une pièce inspirée par cette opiniâtreté de ces chants avec très très peu de notes, très, très peu baroque, en fait. Et pour revenir au baroque, l'acception qu'on a du mot baroque globalement, ce qui m'a très vite intéressé, c'est que dans toutes ces régions, le bouddhisme s'est installé chez des peuplades animistes. Et pour le coup, l'animisme, c'est très exubérant. Leur rituel, leur façon de parler aux esprits, leurs choses comme ça. Alors que dans le bouddhisme, en général, et surtout Theravada, on ne croit pas en l'âme, car rien ne peut être éternel pour Bouddha. Et la confrontation entre ces gens qui font énormément de cérémonies et qui parlent aux morts et qui ont même un langage de gong pour appeler les morts à venir écouter les bonnes paroles, comment ça pouvait vivre avec le fait que l'âme n'existe pas? Évidemment de manière poétique, pas de manière analytique, mais c'est ça qui m'a intéressé. Et donc j'ai composé cette pièce, je répète encore demain dessus, qui est pour six musiciens, donc deux batteries, Franck Vaillant et Sébastien Brun. Il y a Jean-Sébastien Mariage à la guitare électrique, Julien Boudard de la musique profane au synthétiseur MS-20, Antoine Viard au sax baryton, Antoine Viard qui est un des piliers du collectif Coax, et moi à la basse électrique. On fait la création au festival Densité le 29 octobre, et ensuite ça reprend en janvier avec le FGO Centre Barbara, qui sera le 18 janvier si je me souviens bien, et après c'est un peu parti.
Merci beaucoup en tout cas Frédéric Galliet d'être venu nous parler. Merci. De votre musique, de votre art en général, de vos projets, et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. Derrière la console étaient Julie Garraud et Pierre Monteil, attachés d'émission Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est temps de retrouver Création Mondiale d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.